I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson et réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, pour une dispute spectacle plus précisément consacrée au One Woman, surtout, et un peu One Man Show, Lily Bloom, Lucille Como et Philippe Chevillier. À notre affiche, Marine Bausson dans La Lesbienne Invisible d'Océan jusqu'au 27 décembre à la Nouvelle Scène. Fabrice dans 14 juillet de Fabrice Adé et Olivier Lopez, c'est jusqu'au 4 novembre au Théâtre du Rond-Point. Anna Gatsby dans Nanette de Anna Gatsby, c'est disponible sur Netflix, tout comme le coup de cœur de Lucille Como pour Je parle toute seule de Blanche Gardin. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir à l'occasion de la réouverture de la piscine à Roubaix. Gagner des invitations pour ces 5 expositions consacrées à de nombreux artistes comme Hervé Di Rosa, Pablo Picasso ou encore Giacometti. C'est à découvrir jusqu'au 20 janvier. Et nous ouvrons cette dispute avec un cas d'école, un one-woman show autobiographique d'une femme devenue homme qui met en scène une autre femme pour raconter la première partie de sa vie. Tout le monde a compris ? Océan. Anciennement Océane Rosemary, a passé le relais à Marine Bausson pour reprendre son spectacle La Lesbienne Invisible.
Et puis la PMA n'arrivant toujours pas en France, et ben, on a fait un bébé Thalys. Et comme la plupart des couples de lesbiennes qui ont fait un bébé Thalys ou un bébé Spanish, et ben, on l'a appelé Ulysse. Parce que tu as pu arriver suite à un long voyage, 2 ans d'économie et l'héritage de mamie, mon chéri. Et alors Ulysse, c'est dingue parce que tout le monde pense que c'est moi qui l'ai porté tellement il me ressemble. Ouais, comme quoi la génétique, hein. Ouais, face au charisme, ce n'est rien. Et alors Ulysse, il est content. Mais il est content, il est tout le temps content. Oui, parce que un enfant qui a 2 mamans peut quand même être épanoui. En fait, ce n'est pas l'homoparentalité qui rend les enfants malheureux. C'est drôle, hein? Mais nos copines Julie et Valérie, elles n'ont pas eu l'héritage de mamie et elles gagnent juste de quoi s'acheter à manger. Même pas bio en plus, j'imagine. Du coup, elles n'ont pas pu avoir de petit Ulysse parce que ça leur faisait trop cher en Thalys. Alors avec Nathalie et Ulysse, on continue d'aller aux manifs pour exiger que les lesbiennes soient à égalité avec toutes les femmes. Qu'elles aient les mêmes droits, quoi. Parce que c'est bien beau de dire « On marche avec les homos! On est avec vous! On a le même chien à la Gay Pride !» Par contre, on préférait que vous n'ayez pas les mêmes droits, ni les mêmes droits. Parce que ça nous dégoûte un petit peu, quand même.
Voilà pour cet extrait de La Lesbienne Invisible. Alors, l'extrait est choisi d'ailleurs, est plutôt à la fin du spectacle, ça on va en parler. Dans son actualisation, c'était pas quand Océane Rosemary le jouait, c'était pas dans le texte, mais Océan a réécrit pour partie ce spectacle en mettant en scène Marine Bausson. Lucille Como, tiens, pour commencer.
Oui, Océane Rosemary, qui est donc maintenant un personnage, ce qui est assez particulier, mais on en reparlera dans un seul en scène, pris en charge donc par une comédienne. Pour un spectacle, qui est un spectacle extrêmement militant quand même au départ, même si en effet ce passage n'en faisait pas partie, sur donc, comme le dit son titre, l'invisibilité des lesbiennes dans l'espace public, dans le discours médiatique, dans le quotidien. Et c'est un spectacle qui prend une expérience propre en exemple, depuis l'enfance donc d'Océane Rosemary, jusqu'à son coming out, ses premières dragues, ses vacances avec ses copains, et puis à la fin, le couple, et puis les enfants. Donc de ce point de vue, c'est extrêmement classique. Ça fonctionne beaucoup par la caricature. À la fois la caricature de personnages autour de la lesbienne invisible, qui sont celles, les personnes avec qui elle a du mal à avoir du répondant. Donc il y a l'homme macho, les autres lesbiennes qui sont quand même assez catégorisées, voire un peu dans une typologie caricaturale. Ce qui, à mon avis, pose aussi des questions fond sur le caractère militant du spectacle, parce que la caricature, elle fonctionne vraiment des deux côtés et qu'on finit par avoir une sorte de typologie assez sommaire de ce que sont les lesbiennes. Donc, invisibles ou non, elles le sont assez caricaturales. Il faut peut-être donner quelques éléments de mise en scène. Donc, c'est la petite scène de la nouvelle scène. Marine Bausson bouge énormément. On en parlera parce que dans les autres spectacles, elle bouge très peu. En l'occurrence, là, elle bouge vraiment beaucoup. Elle a un petit fauteuil, quelques accessoires, mais ce qui est assez époustouflant, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le spectacle, c'est le rythme. On a entendu le débit. Elle a un débit qui était aussi celui d'Océan quand il jouait le spectacle, qui est extrêmement rapide, avec des ruptures de ton. Elle court énormément, elle danse, elle fait du karaoké, elle chante. Bon, de ce point de vue-là, c'est très réussi. Moi, j'ai beaucoup ri. Après, sur le volet, le côté militant assumé du spectacle, j'ai plus de doutes.
Bon, on reviendra sur ces doutes peut-être. Lily Blum, un premier regard sur Marine Bausson.
Oui, je suis d'accord sur le côté militant parce qu'il y a un côté assez inoffensif. Le spectacle, finalement, ne peut brusquer personne et ça peut être aussi une qualité, je veux dire, le côté inoffensif parce que la première sensation que j'ai eue, moi, devant le spectacle, c'est presque d'oublier les enjeux et de juste voir une jeune fille rangée, bourgeoise, avec une enfance heureuse, qui a des soucis de jeune fille, en fait, et qui me parle de séries que moi aussi j'ai regardées plus jeune, des Hell World qui a autant plu à des filles homosexuelles qu'hétérosexuelles. Enfin voilà, elle a des problématiques qui paraissent un petit peu légères et qui en même temps sont désarmantes, donc ça peut devenir engagé malgré soi, parce que dans sa douceur il y a un côté désarmant pour quelqu'un. Voilà, on a presque envie de dire à une jeune homosexuelle en province dans un milieu un peu étriqué d'aller voir ce spectacle avec sa famille pour dédramatiser le rapport à l'homosexualité. Il y a ce côté-là, et en même temps j'étais fascinée par le côté passage de flambeau, justement. Alors il y a des textes qui se passent, comme le monologue du vagin, il y a des choses qui ont ce sens-là, et effectivement ce texte a été écrit il y a 10 ans. Alors ce qui m'a aussi intéressée, c'est le fait que justement Océan le transmette quand il quitte presque la planète des lesbiennes, comme pour laisser quelque chose de lui sur cette planète-là. Et voilà, est-ce qu'on peut devenir un personnage? Est-ce que du coup, qu'est-ce que ça signifie dans l'époque? Qu'est-ce qui, voilà, dans la confrontation des deux écritures? Alors moi, je n'avais pas vu le premier spectacle. J'ai un petit peu étudié dessus. Alors il n'y a plus la fête des lesbiennes. Il y a la fin a effectivement changé sur la PMA et plus positive finalement. Qu'est-ce qu'on dit d'une écriture à 10 ans d'intervalle, quoi?
Bon, premier regard maintenant, Philippe Chevillier, sur ce spectacle.
Moi, c'est un spectacle bienveillant. J'ai bien aimé les spectacles bienveillants parce que je suis bienveillant. Non, je pense d'abord que il y a une dimension un peu classique finalement. C'est un texte qui a 10 ans, comme vous disiez. Et finalement, je trouve que ça passe. Bien aujourd'hui, ça passe bien aujourd'hui pour une raison aussi, c'est que les lesbiennes sont toujours un peu invisibles. Donc, on voit que finalement, quand on réfléchit, je suis pas un spécialiste des one women et one man show, mais enfin, c'est pas un domaine qui est forcément énormément exploité, et que tout l'humour camp, l'humour gay, on le retrouve très facilement un peu partout. D'ailleurs, pas seulement dans les one-man shows, mais au théâtre, au cinéma, c'est un petit peu moins vrai quand même pour les lesbiennes. Et du coup, il y a un peu une pédagogie, un manuel, un vademécum qui est assez drôle et qui effectivement est assez bienveillant, même sur les hommes, parce qu'elle les attaque pas vraiment de façon très virulente. Cela dit, ce que ça raconte quand même, je trouve ça assez fort. Et quand, par exemple, elle se moque des femmes hétérosexuelles et de la drague des femmes hétérosexuelles
qui ont toute envie d'essayer quand même une fois.
Et si j'essayais, ça sera avec toi et pas avec une autre. Enfin, bon. Et le passage sur les films porno lesbiens, enfin, elle passe à peu près tout en vue, y compris les boîtes branchées, mais c'est toutes les boîtes branchées qui peuvent être aussi hétéro comme homo, mais c'est vrai que la présentation, c'est vrai que c'est de la caricature, mais c'est le principe même quand même de l'humour et de l'autodérision. Moi j'étais assez pris par ce spectacle, par les réactions des gens d'une salle assez mélangée sur ce bateau là, dans la soute de la nouvelle scène, de cette péniche. J'ai trouvé que l'ambiance était assez sympathique, qu'il y avait vraiment que ça vibrait, et je me dis 10 ans après ça vibre encore. Alors la deuxième chose, c'est que je pense aussi que ça fonctionne, ça c'est ce que vous avez dit, c'est que au fond Marine Bausson, elle apporte une fraîcheur, un peps assez incroyable, et c'est vrai qu'on a, tout d'un coup, on se dit, Océan a vraiment trouvé la solution, parce qu'il pouvait évidemment plus porter ce texte, ça serait impossible maintenant. Mais il a trouvé la personne adéquate qui vraiment épouse le texte, lui donne une modernité, une fraîcheur, un décalage, et moi j'ai passé une excellente soirée, sachant que c'est un spectacle léger, mais cette légèreté-là, elle est au service de finalement, si plein de gens pouvaient le voir, ça les éclairerait peut-être, enfin, dans les milieux plus hétérosexuels, des hommes aussi, c'est intéressant, parce que ça prend pas de front, mais en même temps, ça dit pas mal de choses, voilà.
Alors, c'est vrai que dans cette programmation toujours remarquable de cette émission, on va parler d'Anna Gazmi dans un instant, donc vraiment, écoutez bien ce qu'on dit concernant ce spectacle La Lesbienne Invisible, parce que ce sera aussi en regard de Nanette, dont on va parler dans quelques minutes, mais pour revenir d'abord, vers la nouvelle scène. D'abord, je crois que c'est la première fois qu'on parle de la nouvelle scène dans cette émission. Et c'est une bonne chose qu'on en parle enfin, parce que c'est un lieu qui est devenu un lieu important maintenant du défrichage vers de nouveaux et de nouvelles humoristes. Et effectivement, on y est bien accueillis. Enfin, ça participe du plaisir qu'on peut avoir dans une soirée de spectacle. Et que Marine Bausson, moi, j'ai trouvé très à l'aise dans la peau d'une autre, parce que c'est quand même de ça qu'il s'agit, même si c'est toujours de ça qu'il s'agit. Sauf que l'autre en question, c'est la personne qui vous met en scène. Donc, c'était évidemment une relation très particulière. Il se trouve qu'en tout cas, avec Lucile Comot, on a vu un soir où ça faisait partie des premières représentations. Et je pense que ça va gagner aussi, et ça va sans doute gagner déjà en fluidité, en rythme. Et moi, j'étais impressionné par son énergie. C'est une forme de vitalité. On sait bien que le stand-up, ça fonctionne quand même beaucoup dans les allers-retours d'énergie entre le plateau et la salle. Les tensions dont parle Anna Gazmi, on y reviendra tout à l'heure. Et qu'il y a une tension, mais douce, c'est vrai. Il y a une sorte de tendresse, parce qu'il y a toujours un petit pas de côté. C'est une forme d'écriture humoristique assez classique du 21e siècle, on va dire ça comme ça. Mais en effet, ça aborde des thématiques qui sont importantes. Moi, j'étais très heureux que ce soit réactualisé et que la PMA, qui est loin d'être réglée, fasse partie de ces questions. Mais comme Lucile Comot, comment tord du nez,
non, c'est, moi, je lui c'est donne la parole pour réagir. Au contraire, j'ai trouvé moins intéressant, parce que j'entends le décalage, je pense, dans l'écriture. Hein, c'est un truc bête d'écriture, mais je trouve ça moins habile, moins drôle, justement.
Ça,
peut-être
c'est
moins fin à ce moment, là, quand ça arrive. Après, juste pour rebondir sur la question le côté militant, ou en tout cas la force du propos, je trouve que c'est là où c'est passionnant, c'est justement dans la reprise de rôle. C'est que c'est un spectacle qui repose sur des mécanismes extrêmement connus dans le seul en scène, qui sont les mécanismes communautaires. Sauf que la personne qui est en face de nous, qui dans ces cas-là en général est la première concernée, dit « je », dit son prénom, ce qui est le cas dans 99% des one-man shows, là en l'occurrence elle s'appelle Océane Rosemary, et ce qui est très troublant, c'est que quand on regarde des vidéos d'Océan quand il faisait le spectacle, elle limite vraiment. Marine Bausson, ce qui est très bien, hein, elle limite beaucoup. Il y a des choses dans le ton, ce côté un peu jeune fille bourgeoise, effarouchée, dans les postures, c'est assez étonnant à quel point elle limite, et c'est ça qui est assez passionnant. Je trouve que ça interroge beaucoup sur ce que c'est qu'un seul en scène, sur ce que c'est, et puis on en reparlera avec Anna Gazmi,
la représentation de
l'authenticité,
est-ce qu'elle de l'engagement personnel. Je vous interromps parce que moi, c'est le premier spectacle de Marine Bausson que je vois.
Alors justement, j'aimerais vraiment la voir dans autre chose.
Peut-être qu'Océan l'a choisi justement parce qu'il y avait déjà
une affinité, bien
quelque
sûr.
Chose qui, dans le corps, dans les attitudes, dans le débit.
Mais du coup, ça veut dire que c'est vraiment un emploi. Ça devient un emploi que la lesbienne invisible en one-man show. Et ça, pour le coup, ça me passionne. Je trouve ça passionnant d'un point de vue théorique sur ce que c'est qu'un seul en scène.
Lily Blum.
Alors moi, je l'ai vu récemment. Donc je pense que je n'ai pas eu la même expérience en fait avec le spectacle. Parce que pour moi, j'avais l'impression qu'elle avait complètement investi le personnage. Ben voilà. Librement, et qu'elle s'était justement libérée de ce qui pourrait apparaître comme une imitation d'Océan. Et du coup, oui, effectivement, ça reste un personnage. C'est même, il y a même un nom pour ça, c'est la lesbienne rouge à lèvres. C'est la lesbienne trop féminine, qui met des petites jupes, qu'on ne repère pas, entre guillemets, et qui sort du rang et qui est parfois rejetée par sa propre communauté. Donc, oui, effectivement.
C'est un emploi.
C'est un emploi, finalement. On est tous en train de jouer un personnage. Voilà.
C'est une typologie de plus dans la typologie, parce que la caricature, c'est, Philippe Cheville disait, un trait absolument récurrent de ces spectacles humoristiques. Mais en même temps, la caricature, elle fait référence toujours à du réel. Les butch, les joueuses du club de foot, c'est quand même un grand moment, le club sportif. Il y a quand même beaucoup de saillies, beaucoup de choses qui envoient absolument et qui touchent, moi je trouve, assez juste. Philippe Chevillier.
Oui, moi c'est ce qui m'a finalement on prend deux trois comme ça, on peut se dire oui, c'est une vision un peu univoque, mais justement elle couvre quand même bien toutes les caricatures, tous les travers possibles, et puis en plus avec une certaine tendresse. Il y a aussi la carte du tendre lesbienne. Moi j'aime beaucoup la phrase où elle dit on est resté 9 mois ensemble, chez les hétéros c'est 4 ans et demi, chez les PD c'est 3 ans. Et c'est
3 minutes.
Non, 3
heures.
Ah, j'ai compté 3 heures, moi j'ai
compté 3 ans. C'est encore
ouais.
plus vite.
Enfin, mais, ça va, c'était beaucoup
alors,
plus drôle.
Alors je vous la réexplique alors.
Oui.
J'aurais resté 9 mois ensemble.
Son métier, c'est...
Chez les hétéros ça correspond à 4 ans et demi, chez les homos hommes 3 heures.
Je pourrais peut-être en faire un sketch de cette affaire. Tellement j'étais nul. Bon, mais en tout cas,
c'est... Ça, c'est Fabrice Hadd, là, vous, c'est autre chose.
Voilà,
c'est le troisième spectacle.
C'est autre chose. Et moi, ce qui me fascine aussi, c'est Océan, qui a été Océane, Rosemary, et en fait, c'est quelqu'un aussi qui a une... qui a fait beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi Ocean, il y a les disques. Moi, je les ai écoutés un petit peu avant de partir. J'avais un peu oublié. C'est assez intéressant. C'est un genre un peu pop française. Cette volonté de porter ce personnage, comme vous disiez, Lily, qui est plutôt une lesbienne féminine, et puis qui tout d'un coup décide de changer, de devenir un homme trans. On va voir ce que ça va donner après.
On attend le prochain spectacle.
Voilà,
elle reprend Justice, je pense, dont on avait parlé l'an dernier, quand elle était encore Océane Rosemary. Marie, et elle rejoue maintenant en tant qu'Océan. Le spectacle, là aussi, choral, pour le coup. Et je ne voulais pas vous interrompre, Philippe.
Non, mais après, mon résumé d'une scène.
Vous avez une autre
drôle,
blague, peut-être.
Je n'ai plus de blagues à raconter. Justement, il fallait les voir, parce que ça, on peut les interpréter comme on veut. Non, mais j'aime bien aussi cette façon aussi d'aborder les hommes, c'est-à-dire sous un air un peu gentil, parce qu'à chaque fois, c'est des braves types qui essayent d'être sympas et d'être open avec les lesbiennes, qui comprennent rien et qui réagissent toujours de la même façon. Avec leur esprit, avec leur trip, avec leur sexe et tout ça. Et c'est finalement ces petites douceurs, elles sont, c'est des petits poisons qui sont distillés. Mais ça fait à la longue un spectacle bienveillant. Moi, j'avais au premier rang, je crois qu'il y avait une jeune fille avec son parrain qui était là et qui participait même au. Ça a failli devenir gênant parce qu'il participait au sketch. Et donc c'était, je me suis dit bon, peut-être c'est moi qui l'imaginais, mais c'est quelque chose de familial. On emmène le parrain pour montrer, voilà. Et le parrain, il a dû s'amuser, se dire voilà, finalement quel monde, la différence, c'est intéressant, c'est un monde à découvrir.
Que dire mieux pour faire la chute concernant cette séquence qui était consacrée à la lesbienne invisible d'Océan, interprétée par Marine Bausson. C'est jusqu'au 27 décembre, ce sont les jeudis soirs, à la Nouvelle Scène. Je pense que vous avez compris qu'on vous le recommande. À suivre dans la dispute, alors on va mettre ça en regard, même. Bon, je vous explique dans un instant. Anna Gatsby dans Nanette, ça c'est disponible sur Netflix. Fabrice Hadd dans 14 juillet, c'est au rond-point en ce moment. Et puis il y aura un coup de cœur signé Lucille Comeau pour Je parle toute seule de Blanche Gardin.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Suite de cette dispute One Woman Show, enchaînement logique donc avec Nanette, le spectacle d'Anna Gatsby disponible sur Netflix depuis juin dernier, qui est devenu un grand succès de la plateforme par un bouche à oreille mondial. Il n'y avait pas forcément eu beaucoup de promotion, mais il y a maintenant beaucoup de visionnage. En tout cas, Anna Gatsby a été jusqu'à juin dernier connue sur un seul continent, mais qui est aussi son pays, l'Australie. En 10 années de carrière, elle a joué là-bas et signé une dizaine de spectacles. Elle a été chroniqueuse dans un late night show, a joué dans une série, Please Like Me, également disponible sur Netflix. Son premier spectacle parlait de son coming out homosexuel dans un pays pas franchement ouvert, d'autant plus qu'elle est née en Tasmanie, où l'homosexualité n'a été décriminalisée qu'en 1997. Nanette, on va l'expliquer, c'est le spectacle des adieux d'Anna Gatsby au stand-up. Il a été filmé dans la très grande salle de l'Opéra de Sydney, ce qui nous renseigne quand même aussi sur la notoriété de cet artiste dans son pays. Alors un extrait forcément doublé.
Look, I am angry. I apologize. I do. I apologize. I know there's a few people in the room are going, ah, look, I think she's lost control of the tension. That's correct. I did a bit there. Oh. So I'm not very experienced in controlling anger. It's not my place to be angry on a comedy stage. I'm supposed to be doing self-deprecating humor. People feel safer when men do the angry comedy. They're the kings of the genre. When I do it, I'm just a miserable lesbian ruining all the fun on the banter. When men do it, heroes of free speech. I love angry white man comedy. Oh, so funny. It's hilarious. Oh, they're adorable. Why are they angry? What's up, little fella? What are they angry about? Gosh, can't work it out. They're like the canaries in the mine, aren't they? If they're having a tough time, the rest of us are goners.
Forcément non doublé, évidemment, Anna Gatsby. Mais ce qui est formidable, d'ailleurs, dans cet extrait, c'est qu'on entend la musique. Et que Anna Gatsby, c'est aussi beaucoup de musique, beaucoup de rythme, beaucoup de sonorité, beaucoup de jeu avec les accents qu'on a un peu entendu. Parce que, comme le disait Lucille Comeau il y a un instant, si elle ne bouge quasiment pas, quasi statique, ça voyage beaucoup dans la voix et dans le visage. Surtout Lily Bloom, pour commencer ce spectacle qu'on peut voir sur Netflix. Donc.
Oui, c'est l'autre côté. On parlait de la jeune comédienne tout à l'heure, qui est en fait une comédienne très extravertie. Là, c'est l'inverse. C'est l'introvertie qui monte sur scène et qui prend le risque de monter sur scène. Moi, j'ai une relation très paradoxale à ce spectacle, qui est un spectacle paradoxal parce que, alors, il a été appelé comme étant très révolutionnaire. Il m'a, laissé un sentiment étrange parce que c'est un spectacle très manipulateur. Mais qui en même temps éblouissant dans sa manipulation, c'est-à-dire qu'elle a une maîtrise totale du tempo jusque dans son étirement et enfin vraiment le plus extrême dans la deuxième partie. Donc c'est un spectacle qui commence de manière classique, comme un one-man show classique, un stand-up classique, et puis d'un seul coup, on passe dans du free speech comme dans une conférence TED, avec des moments de violence, de rage, qui pourraient sembler non contenus, mais qui en fait sont totalement contenus, maîtrisés. Parfois, à un moment, elle tape sur le micro comme ça, pour à un moment où elle parle de Trump, on se dit, waouh, c'est dingue, on a l'impression de voir un concerto, quoi. C'est impressionnant sa maîtrise du tempo. Et elle dit toujours, elle fait toujours une démonstration paradoxale. C'est-à-dire, elle dit, l'humour c'est fini. Elle définit, voilà, pour moi, l'humour c'est fini, je m'en vais, je n'ai plus envie de rire. Et en même temps, tout en faisant ça et en gardant ce tempo comique, c'est grâce au garde-fou de l'humour que son message peut passer, que sa fameuse histoire peut être racontée. Il y a quelque chose comme ça qui vous enveloppe en permanence et qui est très à l'américaine, c'est-à-dire cette absolue maîtrise de l'émotion, de qu'est-ce qu'on va raconter de sa vie. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, les Français, quand on... Et j'étais à la fois éblouie, un petit peu glacée par l'exercice, parce que ce n'est pas si révolutionnaire que ça. Il y a un festival, le festival Fringe, qui déjà développe des histoires dans leur longueur, en jouant avec la frontière. Il y a Dave Chappelle qui aussi a de grands moments où il part en free speech. Mais là, elle a eu le bénéfice du moment, c'est-à-dire à un moment, elle dit un artiste ne peut jamais être en avant sur son temps. Quand elle parle de Van Gogh, il ne fait que réagir à l'air du temps et renvoyer quelque chose. Et elle a magnifiquement capté l'air du temps et tout le mouvement MeToo et elle est une merveilleuse réponse à ça, brillantissime. Mais voilà, elle est tombée pile au bon moment. Voilà.
Philippe Chevillier, premier regard sur ce spectacle d'Anna Gatsby.
Alors d'abord, je vous rassure, je ne dirai pas des extraits en anglais, moi, du spectacle.
Dommage. Ça serait encore mieux.
Alors moi, j'ai d'abord été frappé. C'est vrai qu'on est loin de la lesbienne invisible. Et pourtant, c'est un spectacle qui m'a beaucoup plu. Sur le plan théâtral, je trouve que d'abord, la portée, c'est de trouver cette femme seule au milieu de cet opéra. C'est absolument, si on se dit, un stand-up avec tout ce monde. Bon, on a vu, évidemment, des monologues ou des gens seuls dans un... Mais vraiment, cet opéra de ciné, c'est quand même impressionnant. Ensuite, c'est vrai que pour quelqu'un qui le découvre comme ça, on a vraiment la déconstruction d'un spectacle comique, puisqu'on part sur... On sent qu'il y a dès le départ, une âpreté, mais on est quand même sur les blagues qu'elle fait, qui sont le produit de plusieurs années, puisqu'elle a fait aussi des séries télé consacrées elle-même, d'après ce que j'ai compris. Elle a fait beaucoup de choses. Elle doit traîner toutes ces histoires depuis très longtemps, donc elle fait des petits clins d'œil, mais sans, pour quelqu'un qui découvre, on est quand même captivé. Et puis d'un seul coup, ce virage au milieu où on tombe dans une forme tragique, c'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois, elle va se mettre en colère en général sur la sur la situation des homosexuels, des lesbiennes, et mais aussi raconter ses propres traumatismes. Et elle va tous les dire à un moment donné. C'est ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle raconte une blague qu'elle a racontée au début. Elle la raconte avec la vraie fin, et la vraie fin de cette blague, que je ne raconterai pas,
change
est tragique.
Tout.
Change tout. Donc c'est assez impressionnant. Alors c'est vrai que c'est déroutant parce que on est dans du comique qui est vraiment assez subtil. Elle a un charisme indéniable. On est pris par l'histoire. Et puis d'un seul coup, c'est vrai que cette impression de manipulation, je la comprends, et même de quelque chose de clivant, parce que quelquefois elle assène des choses sur l'art et tout ça qui peuvent agacer, etc. On a l'impression presque qu'on est dans une, il y a un côté évangéliste presque dans la façon qu'elle a. Elle prêche d'une certaine façon, mais comme c'est vraiment bon, on se dit c'est de la manipulation sans doute, mais il y a une telle sincérité derrière, et en plus elle s'est cache, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de subterfuge, elle dit vraiment ce qu'elle pense, et simplement à la fin on se dit on oublie qu'on a regardé un spectacle comique, parce qu'on est vraiment, on sort sonné de ces spectacles. C'est une expérience assez inouïe à vivre, et je trouve que c'est, bon, je dirais pas complémentaire, mais c'est vrai que de voir Les Lesbiennes Invisibles et de voir ensuite Nanette, c'est une sacrée expérience.
On a un point sur la question, on va dire. Lucille Como sur Alain Gatsby.
Oui, je rebondis sur ce que vous disiez, Philippe. En effet, moi, j'ai vraiment l'impression, et surtout dans la deuxième partie, mais ça commence en effet dès le départ, à assister aussi, parce que la mise en scène est aussi spectaculaire, à une forme de messe évangélique. J'ai pensé à ça immédiatement, avec les lumières bleues, la manière dont elle bouge devant son micro. Et c'est un sermon. Franchement, moi, voilà, j'ai vu ça comme un sermon sur, en effet, un air du temps récupéré et renvoyé peut-être à la gueule des spectateurs, comme vous disiez, Lily, mais qui, à mon avis, est un air du temps totalement mis en scène, extrêmement écrit. Enfin, moi, je me méfie énormément, justement, du côté cash, qui, à mon avis, est totalement construit, écrit, etc. Pourquoi pas, hein. Mais qui pose des problèmes. Moi, ça me pose vraiment question. Notamment, c'est un spectacle qui part d'un postulat qui est asséné à peu près au milieu du spectacle, qui est que on a en fait deux choix quand on est une femme et qu'on veut faire qu'on est en stand-up, qu'on est seule en scène. C'est ou de l'autodérision, ou être sérieuse et du coup balancer les vraies choses à la tête du public. Sauf que c'est faux. Enfin, l'humour, c'est pas que l'autodérision, et il y a plein de femmes, je pense, qui réussissent à faire autre chose que de l'autodérision.
Pour préciser votre propos, quand elle dit autodérision, ça veut égale humiliation.
Voilà, parce qu'en fait, elle considère que quand on fait partie d'une minorité qui est la minorité lesbienne et même femme, en fait, de toute façon, on peut, dès qu'on fait de l'autodérision, on s'humilie en effet. En gros, il y a que les hommes blancs qui peuvent faire de l'autodérision. Moi, déjà, ça me gêne parce que je pense qu'il y a plusieurs humours possibles, plusieurs formes de comiques possibles, et que du coup, il n'y a pas deux possibilités politiques, entre guillemets, de s'en sortir quand on est une femme lesbienne. C'est ou l'autodérision ou l'espèce de confession moralisatrice, en fait. Du coup, ça m'a très peu fait rire, même la première partie, je la trouve pas très drôle en tant que comique. Donc, ça m'a laissé une impression assez amère, une impression, en effet, un peu comme vous le disiez, Lily, d'avoir été un peu manipulée, d'avoir assisté à un objet qui profite énormément de l'air du temps pour se poser là en garant d'une bonne conscience généralisée. Et quand on lit la presse française, y compris parce que toute la presse, les réseaux sociaux puis la presse se sont emparés de cet objet à peu près à l'été, c'est assez gênant parce qu'on a vraiment l'impression que c'est une bonne parole d'un seul coup qui est livrée à la fois sur la sexualité féminine, sur la sexualité lesbienne, sur les rapports de force entre les hommes et les femmes aujourd'hui, sur ce que vous disiez, qui est extrêmement simpliste quand même, sur l'art, l'histoire de l'art. Alors là, on balaye à peu près tout en deux minutes avec la conclusion que tous les hommes artistes, de toute façon, sont des oppresseurs et que comme c'est eux qui construisent nos histoires, on les subit aujourd'hui. En fait, c'est tellement simpliste que ça ne veut plus rien dire. Et moi, ça me pose problème qu'on nous donne ça en discours incarnant le féminisme aujourd'hui, parce que c'est le cas. Moi, j'ai vu des penseuses qui se revendiquent du féminisme en France, qui ont posté Nanette comme étant l'objet le plus adapté à notre époque, le plus instructif. Moi, vraiment, pour moi, ça ne l'est pas. Enfin, j'espère que ce n'est pas ça le féminisme aujourd'hui, vraiment.
Vous voulez répondre, Philippe, d'abord, avant que j'intervienne.
Ce qui est certain, c'est que on peut y voir une prise de position narcissique, sans doute, puisque elle ne part que d'elle. Et d'ailleurs, il y a un moment qui est intéressant, c'est que elle critique justement la bonne pensée lesbienne qui lui ont reproché que ses spectacles n'étaient pas assez lesbiens. Mais justement, c'est pour ça qu'on est pris entre deux feux, parce que moi, je pense, c'est effectivement, elle manipule parce que c'est une artiste, parce qu'elle a du charisme, parce qu'elle a du talent, mais c'est vraiment la décision de se livrer complètement. Encore une fois, on va pas tout raconter, mais ce qu'elle raconte, c'est quand même très dur.
Elle a subi elle-même des violences.
Donc c'est tout le problème de l'autofiction. Une autofiction sur scène est portée à ce niveau. C'est vrai que c'est assez exceptionnel. Et moi, j'avoue que j'adhère pas à tout. Je pense qu'il y a quand même un propos sur la différence et la violence qu'elle prend est quand même intéressante. Alors après, la violence, faut dire qu'à la fin, elle la renverse un peu en disant grosso modo, la colère, c'est pas bien, après avoir été en colère. Ouais. Et heureusement, il y a l'amour. Et bon, c'est un raccourci un petit peu facile, mais sans qu'elle veut pas aller jusqu'au bout de cette logique. Et je voulais simplement dire sur le plan du show, en tout cas, et de la forme rejoint le fond, mais c'est quand même quelque chose d'assez d'autres doivent le faire, mais la façon dont elle le fait, encore une fois, dans cet opéra de Sydney, c'est pour ça que je pense que les gens réagissent comme ça, c'est-à-dire que c'est une force de frappe inouïe, quoi.
Lucine,
oui, alors peut-être que la force émotionnelle, par ailleurs, de là où on est derrière notre écran, ça doit être en effet très différent. Je me suis dit ça. Je me suis dit qu'il y avait aussi des différences de langue et de culture, tout simplement, qui faisaient que là, on a affaire à un grand show à l'anglo-saxonne, avec, je pense, en effet, une culture du free speech ou free talk, que moi, par exemple, je n'ai pas du tout. Donc j'avoue que la difficulté à catégoriser sa prise de parole m'a pas aidé à aimer le spectacle. Juste, je voulais réagir sur la question de l'autofiction, parce que c'est vraiment ce que ça pose, je trouve, comme question. La question de l'écriture de soi, parce que de fait qu'elle le dise ou qu'elle l'écrive, c'est vraiment ça, c'est une question d'écriture de soi. Je trouve qu'elle aplatit totalement le débat en revendiquant en permanence, en assénant la question de l'authenticité et de la vérité. C'est une question qui se tarit absolument. C'est pas ça qui est intéressant dans l'écriture de soi, c'est pas la question de la vérité de fait, c'est la question de la représentation de la vérité. Et là, en fait, elle annule ça, et c'est pour ça qu'on a affaire à un sermon et pas à un spectacle, à mon avis.
Quand vous dites free, moi je pourrais repartir là-dessus. Moi je ne crois pas du tout que ce soit une parole libre. Moi je pense que, comme vous, Lucile Comeau, que tout est écrit à la virgule. Et moi je suis absolument impressionné par son talent de comédienne. Je veux dire, elle, effectivement, ces changements de registre, de ton, enfin, vous le disiez, Lily Bloom à la virgule près et à la seconde près. Donc il y a une très 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 grande maîtrise, et qu'effectivement elle est absolument tout à fait consciente, comme elle l'explique dans son spectacle, de gérer la tension qu'elle induit vers le spectateur et téléspectateur, parce que certes, dans la salle, on doit ressentir autre chose, mais la réalisation et la simplicité aussi de la forme fait que je pense que ça agit quand même très bien via le petit écran. Mais c'est vrai que moi, c'est cette maîtrise qui est ma principale importante réserve sur le spectacle, parce que moi, quelqu'un qui simule aussi parfaitement la colère et les larmes, ça nuit au cachet d'authenticité qui est effectivement imposé à peu près tout le temps, parce que cette colère, ces larmes, on a envie de les partager de notre côté de l'écran, parce que le propos est fort, qu'il est sans doute salutaire, mais et que c'est peut-être bien que beaucoup de gens entendent son histoire, en effet. Mais voilà, il y a on nous prend pour qui, en fait, quand même, quand on veut jouer avec nos émotions comme ça, et dès qu'on y joue de cette façon-là, il y a quelque chose de trop ambivalent, trop ambigu, plus exactement, pardon, pour que j'adhère totalement. Après, il y a tout le travail d'analyse sur le stand-up que je trouve très intéressant, sur effectivement qu'est-ce que c'est qu'une blague, c'est une amorce et une chute, mais il faut pas donner absolument tout le contexte comme on l'explique à l'instant. Il y a côté explication de recette, un peu comme le magicien qui donne qui dévoile un peu les coulisses de ses tours, mais je pense que les meilleures spectatrices et spectateurs de Nanette, le spectacle d'Anna Gatsby, doivent être les humoristes eux-mêmes, et que je serais heureux d'entendre des humoristes qui ont des choses à dire sur ce qu'ils ont ressenti eux devant Nanette. Voilà, je soumets ça, on peut lancer ça. Lily Bloom, pour poursuivre.
Oui, non, moi j'ai l'impression qu'elle a pleinement pris conscience des bouleversements du stand-up dans leur impact sur le monde. Je veux dire, là, c'est impressionnant l'impact qu'elle a eu à travers le monde, rien que par cette vidéo sur Netflix. Et c'est comme si elle en avait la pleine mesure, et qu'elle avait une forme de jouissance de ce pouvoir du stand-up dans son sens premier, être debout et diriger mon discours vers les autres, effectivement en forme de prêche. Et donc, parce que c'est vrai, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux où on se partage des morceaux de stand-up, ça devient une revendication d'identité. Enfin, il y a un vrai pouvoir du stand-up scènes de peur aujourd'hui qui dépassent totalement le cadre de même les 10 dernières années. Enfin, d'un seul coup, là, on a basculé dans une autre ère du stand-up qui peut devenir une vraie force politique. Et on sent qu'elle a la pleine mesure et jouissance de ça, parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente la victime qui reprend, et c'est ça, je pense, qui touche aussi les gens, c'est la victime qui remonte sur scène, la femme reconstruite, comme elle dit, et qui est invincible et qui, d'un seul coup, va pouvoir défendre n'importe qui. Et elle parle, qui va pouvoir défendre les opprimés, quels qu'ils soient. Et elle parle de ça, elle dit « J'ai une responsabilité envers voilà, une petite fille, je ne sais pas laquelle, qui peut entendre ce que je suis en train de dire, je peux lui sauver la vie. » Voilà, donc il y a ce côté un peu divin, voilà, de la puissance, ce sentiment de toute puissance, comme ça, derrière. Mais des blagues, excusez-moi, alors je vais en tenter une, mais qui est très drôle, quand elle dit, elle a quand même un talent d'écriture, d'auteur, dans la grande tradition du stand-up, quand elle dit, par exemple, alors je vais la rater, hein, soyons clairs, mais quand elle dit, j'en ai marre qu'on dise d'un bébé chauve, est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille, ça pourrait être aussi une lesbienne très, très en colère, et je la respecte pour ça, voilà. Moi, ça me fait rire, voilà, elle a une façon comme ça, elle a une vitalité d'esprit, qui est impressionnante quand même, au-delà de ça.
Philippe Chevillier.
Non, ce que je voulais rajouter, c'est je l'ai un peu abordé tout à l'heure, mais j'ai l'impression, il y a une dimension qui est très forte, alors je pense pour les Australiens, c'est que c'est quand même pratiquement 10 ans, je pense, qu'elle fait des shows, qu'elle fait du stand-up et qu'elle fait ses émissions. Encore une fois, si c'est des séries, j'ai vu qu'il y avait une saison 1, saison 2, saison 3,
elle
saison 4.
Un des personnages d'une série.
Elle n'arrête pas de se mettre en scène depuis des années.
Où elle joue le rôle d'Anna, la lesbienne. Voilà.
Donc,
très
d'un
visible.
Seul coup, d'un seul coup, ce spectacle-là qui arrive à ce moment-là, c'est aussi sa vie. Elle a été beaucoup mise en scène à la télé, en show, et donc que c'est tout se mélange un peu, cette autofiction.
Je crois que les Australiens la connaissent. Effectivement, il y a une autre portée.
Je pense que s'il y a une sincérité vraiment dans sa démarche, c'est parce que sa vie, elle l'a vécue beaucoup en représentation. Mmh. Et donc, quand elle a envie de balancer, de dire bon, maintenant j'ai envie de dire autre chose et tout ça, elle le fait aussi en représentation. Et c'est peut-être ça qu'on sent et qui fait que c'est pas justement totalement, même si ça peut agacer, qu'il y a quand même qu'on sent cette sincérité pour moi, enfin que j'ai ressenti.
Voilà. Oui, c'est pas tant agacé, en tout cas je parle pour moi, que gêné, parce que c'est vraiment la question de ce qu'on a à dire, de comment on le dit, de quel endroit on parle et de quelle façon on s'adresse, par quel biais, en appuyant sur quel bouton. Enfin, c'est plutôt ça le problème, Lucille Como.
Oui, moi je pense que se poser en permanence, parce que c'est ça à quoi nous amène le spectacle, la question de la sincérité, justement, c'est une manière d'annuler le propos politique. Parce que c'est poser la question uniquement de soi, de la mise en scène de soi, de sa réalité. Et à mon avis, ce spectacle et toute la douleur et la souffrance dont elle fait montre à la fin, en effet avec un grand renfort mais c'est une actrice d'émotions feintes. Moi, je pense... est une forme de nullité politique. Ce n'est pas un discours politique, c'est encore une fois un prêche, mais c'est pas ça un discours politique. Et je pense que du coup le spectacle ne fonctionne pas, parce que c'est ça qu'il voudrait être.
Philippe, je vais y aller, peut-être pour finir.
Juste une dernière petite chose que j'avais oubliée préalablement, c'est quand même, je pense que il y a quand même des choses qu'elle dit qui sont très fortes et qui et même si ça peut, même s'il y a cette dimension soit trop calculée, soit peut-être pas suffisamment pédagogique ou suffisamment peut-être intelligente, en tout cas moi cette violence qui sort, cette colère qui sort, elle intervient à des moments justement où on est toujours confronté à ces actes homophobes dans le monde entier. On l'a vu en France, les manifestations de ce week-end, et du coup au premier degré quand même, je pense que cette rébellion qu'elle a et ce fait de dire maintenant j'en ai marre, je me mets en colère, c'est pas totalement inutile, même si on peut juger que c'est pas totalement réussi sur le fond politique. Je pense que son charisme, elle le met au service de quelque chose qui la dépasse et qui est quand même assez important.
Ben voyez par vous-même, chez vous ou chez des amis qui sont abonnés à Netflix. Nanette d'Anna Gadsby, disponible donc sur cette plateforme. Et c'est le moment du coup de cœur de Lucille Como pour « Je parle toute seule » de Blanche Gardin.
J'ai jamais été aussi seule de ma vie, mais ça va en fait. Ça va, c'est bizarre, mais ça va. J'ai pas eu de relation amoureuse à proprement parler depuis 4 ans, mais ça va. J'ai complètement raté le virage des histoires de Tinder, tout ça. Moi, jamais... De toute façon, le sexe pour le sexe, je sais pas, j'ai jamais trop compris. Je trouve que c'est un peu sans intérêt, le sexe, quand tu connais pas l'autre. C'est souvent des baises nulles, je trouve. Sinon, les filles porteraient pas plainte. Hein.
Lucille Comeau, votre coup de cœur pour Blanche Gardin.
Oui, puis c'est pas sans rapport non plus avec le spectacle dont on vient de parler. Alors Blanche Gardin, pour dire un peu qui elle est, c'est quelqu'un qui est passé par le Jamel Comedy Club. Ça fait assez longtemps hein, qu'elle est dans le circuit. Elle a joué plusieurs rôles dans des films. Elle a aussi coécrit certains films. Et elle a été repérée assez récemment, en fait pas tellement pour son spectacle, mais justement par des petites vidéos qui ont circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Au Molière notamment, où elle se remettait à elle-même le Molière de l'humour. Et également au César, où elle arborait un badge avec l'effigie de Louis Siquet, ce qui était un moment assez particulier pour lui, et où elle avait fait un sketch qui quand même était assez frais dans l'atmosphère bien lourde des Césars, en disant notamment « Mais est-ce que les actrices ont encore le droit de coucher pour avoir des rôles ?» Moi, ça m'avait fait beaucoup rire. Et on découvrait déjà une manière vraiment très singulière de rire de la sexualité féminine contemporaine, quelque chose entre le malaise et la libération qu'on retrouve donc dans ce spectacle-là, qui est son deuxième spectacle, qui date de 2016, qui est assez classique hein, du point de vue de la forme, avec des blagues, des scénettes, de la même manière l'appel à des épisodes de sa propre vie, avec la construction d'un personnage très singulier, assez violent paradoxalement, en tout cas qui procure un malaise réel, alors que quand on la voit entrer sur scène, la scène est ronde, elle est vraiment agrippée à son micro à pied pendant tout le spectacle, dans une posture très hiératique, elle a les épaules très très proches des oreilles, comme si elle était très 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 tendue, elle a vraiment un physique de jeune fille un peu timide avec une belle robe à pois. Il y a quand même un contraste dont joue énormément le spectacle entre le fond et la forme. Parce que elle balance quand même Blanche Gardin. Elle parle à un moment donné de sa psychanalyse. Il y a quelque chose de ça dans le spectacle. Elle va très loin dans l'introspection, la mort des parents, le suicide, la solitude amoureuse, la frustration sexuelle. Bon là, on en entendait un peu parler. Elle parle surtout de la cruauté de l'enfance, des passages que je trouve vraiment très beaux par ailleurs sur la manière dont elle utilisait notamment ses animaux domestiques. Je ne vais pas en dire trop. Également une relation avec une cousine. À un moment donné, elle dit bah oui, les cousines, ça sert à ça. Ça sert à avoir des jeux sexuels dans l'enfance pour apprendre comment ça fonctionne. Surtout c'est un spectacle qui est particulièrement bien construit avec une montée en puissance à la fois dans la violence et dans le comique à mon avis, ce qui n'est pas facile à faire et à maintenir en équilibre, contrairement au spectacle d'Anna Gatsby qui lâche tout à un moment donné. Elle a vraiment un côté montée en puissance. Il y a un récit notamment final de sodomie subie, donc de viol en fait, suivi d'un retour à la maison en vélo qui met le spectateur, la spectatrice je pense encore plus dans un état quand même très malaisant de rire nerveux que j'avais assez rarement vécu, avec des détails physiologiques. En fait, ce que ça crée, le spectacle de Blanche Gardin, c'est un rire un peu culpabilisant. Et ça pose la question de la pudeur et de la mise à nu, à mon avis, de manière bien plus intéressante que les autres One Woman Show dont on vient de parler. C'est un grand spectacle sur la honte, et en miroir, du coup, aussi sur la honte du spectateur. Voilà. Blanche Gardin, elle est aussi en scène en ce moment avec son spectacle.
À l'européen,
et c'est tout complet.
Et c'est tout complet, mais il y a des tournées, mais c'est vrai qu'elle a aussi souvent joué à la Nouvelle Scène, où elle est, d'ailleurs, je crois, testé ce nouveau spectacle qui s'appelle Bonne Nuit Blanche, mais qui est complet. Donc on peut se rattraper encore une fois sur Netflix, voilà, on l'a pas fait exprès, mais c'est vrai que Netflix a pris une grosse place pour la diffusion de One Woman ou Man Show venue du monde entier, que c'est aussi un lieu où on peut découvrir pas mal de monde. Je parle toute seule, disponible sur Netflix.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
La dernière séquence, cette dispute seule en scène avec un homme quand même, on n'allait pas être complètement ostracisant comme ça. C'est Fabrice Anne qui présente son spectacle 14 juillet au Théâtre du Rond-Point, après l'avoir créé au Théâtre de Liège en avril 17. Il l'a joué aussi dans le Off d'Avignon l'été dernier. Un spectacle tout en déconstruction, là aussi, avec un interprète, un personnage du réel, du faux, aussi des morceaux de classiques de théâtre. Ça va être difficile à résumer, mais il s'agit au départ, soi-disant, de faire une conférence sur la prise de parole en public.
Merci beaucoup d'être venu ce soir pour assister à ce spectacle. Je viens juste pour les précautions d'usage, à savoir de couper vos téléphones portables et l'interdiction de faire des vidéos ou des photos pendant le spectacle, ainsi que l'interdiction de manger ou de boire. Et je viens aussi, de manière un peu plus exceptionnelle, à la demande de Jean-Michel Ribes, le directeur du Théâtre du Rond-Point, pour vous faire un petit mot de... de mise au point ou de mise en garde. Voilà, parce qu'il est venu voir la première hier et voilà, ça s'est bien passé, ça s'est plutôt bien passé. On avait plutôt une bonne première. Enfin, selon moi, je trouve que ça avance bien, le travail avance bien. Et puis après, comme ça se fait toujours après les premières, alors on est allé manger au restaurant, Jean-Michel Ribes, le metteur en scène, Olivier Lopez et puis moi-même. Et pour un petit peu parler de la représentation, pour un peu débriefer, pour refaire le match, comme on dit. Et au fur et à mesure de la discussion, du repas, voilà, ils se sont dit les choses entre hommes. C'était assez franc. La discussion était assez franche et ça fait du bien de temps en temps d'avoir une discussion assez, assez franche. Et voilà, c'était franchement tendu quand même. C'était franchement tendu. Disons que voilà, l'alcool aidant, c'était devenu plus houleux, même. Voilà, carrément houleux. Enfin, à un moment donné, une gifle est partie. En fait, Olivier a giflé Jean-Michel. Ouais, et Jean-Michel a commencé à insulter Olivier, il a traité d'escroc, de voleur. Jean-Michel a dit c'est terminé, j'annule tout. Et Olivier Lopez, le metteur en scène, est parti furieux. Il a claqué la porte et a quitté le projet. Donc voilà où j'en suis ce soir.
Ben voilà, l'ouverture du spectacle de Fabrice Hadd. Philippe Chevillier, pour commencer.
Ben oui, il faut le comprendre, Jean-Michel Ribes, parce que ça devait être un spectacle sur la ruralité, et puis finalement, non, c'est un spectacle qui a été transformé, parce qu'il n'y avait pas... La scénographie imposait qu'il y ait des poules, des lapins, des animaux, des bottes de foin, une treilleuse sur scène, c'était un peu trop cher. Finalement, ils ont changé leur fusil d'épaule, ils ont décidé de faire un spectacle sur la prise de parole en entreprise, et donc comme Jean-Michel Ribes, qui est un peu de gauche quand même, ça lui a pas plu, et finalement...
Bon, allez, voilà. Ah, vous faites bien le spectacle de... Hein,
je recommence le spectacle. Alors en fait c'est un spectacle. C'est vrai que après les deux spectacles dont on a parlé, on est un peu sur Mars là, ou justement sur Mars d'ailleurs. Mais en même temps il y a quelque chose qui est de commun, c'est le fait d'être d'un spectacle qui est quand même un peu qui prend la tangente. C'est un spectacle qui ne démarre jamais, qui est construit totalement sur un faux rythme, avec un humour qui est assez fin, mais qui est toujours limite. On se dit, est-ce qu'on va vraiment rire ou pas? Et puis finalement, on finit par rigoler. Et l'air de rien, ça parle de rien, mais ça parle aussi de tout. Parce que il parle pas de ruralité, mais il en parle quand même. C'est ce qu'il dit au départ, mais il va en parler beaucoup. Il va quand même parler de sa mère, il va quand même parler de sa ville. Parce que le titre de 14 juillet est né à Munneville-le-Bingard, en Normandie. Donc, d'une fête du 14 juillet où il est revenu, parce qu'il a fait des films, Fabrice Hadd. Il s'est retrouvé donc même avec dans The Revenant, dans un petit rôle et tout ça. Donc, il a été bien reçu dans cette ville et c'est le titre qu'il a trouvé pour 14 juillet. Je vais arrêter parce que je suis pris dans l'histoire et
Alors, je vais regarder.
Non, simplement. La seule chose que je voulais dire, c'est que il arrive à créer donc de l'intime, à revenir sur son personnage, sur le personnage qu'il a tout de même inventé, et puis l'air de rien, il aborde aussi toutes les formes de théâtre, puisque on va avoir des clins d'œil évidemment à des auteurs, donc de Calderon jusqu'à Gabilly, hein, en passant par Claudel et même Saint-Exupéry, et tout d'un coup il passe la première fois, on se fait un petit peu avoir, on se dit mais qu'est-ce qui lui prend, parce que tout d'un coup ça devient très lyrique, et puis on se dit bon, ça doit pas être de lui ça, mais bon,
plutôt de Claudel, oui.
Et donc il le fait très bien. Il y a une scène qui est quand même assez assez formidable avec un animal de compagnie qui n'est autre qu'un radiateur. Donc voilà, c'est un spectacle absurde comme les aime Jean-Michel Ribes et comme le public, je pense, les aime parce que on est un peu déstabilisé, mais ça fonctionne bien sur le fil encore une fois, mais ça fonctionne bien.
Lucille Como, pour vous, ce spectacle 14 juillet.
Oui, ce qui est à la fois la faiblesse et la force du spectacle, c'est que c'est très fragile et qu'on oscille en permanence entre parce qu'en plus c'est une toute petite salle, on est très proche de lui, il y a un long moment où les lumières sont allumées, donc nous-mêmes on se retrouve dans un état de grande fragilité à réceptionner ce spectacle qui est complètement décousu. En effet, c'est assez compliqué à raconter parce qu'en fait, derrière chaque spectacle raté, il y a un autre spectacle raté derrière lequel il y a encore un spectacle qui rate. Donc du coup, en fait, ça se déboîte, mais sans jamais réussir à vraiment trouver un objet. Moi, c'est un acteur que j'ai. Alors, je me suis rappelé après le physique très étonnant dans les films qu'il a joué. Bon, vous avez parlé de The Revenant avec Leonardo DiCaprio, mais il a aussi joué dans un film que j'avais beaucoup aimé de Bully Lanners, El Dorado, où il jouait un marginal avec avec une tête pas possible. Et là, c'est vrai que quand il entre en scène, il a plutôt un côté extrêmement normal, avec sa petite sacoche en cuir, un peu prof à la retraite. Donc c'est assez, déjà, c'est assez surprenant, ce physique-là, avec l'espèce de côté totalement absurde de ce qui va suivre. Moi, j'ai trouvé que c'était un spectacle finalement très mélancolique. Alors, je sais pas si j'étais très déprimée ce soir-là, mais ça m'a vraiment déprimée. Pas au mauvais sens du terme, mais toute sa, cette espèce de défilochage, de sa manière de prendre. En effet, moi, pour moi, ça a vraiment basculé au moment où il a commencé à dire Sigismond, donc du Calderon, parce que j'ai trouvé que là, il se passait quelque chose sur d'interrogation sur ce que c'était que la représentation théâtrale. Et malgré les espèces de blagues qu'il fait après, qui sont assez basiques, enfin, bah, basiques, mais très courues sur ce que c'est qu'un metteur en scène, sur des caricatures de scénographes, il y a, à mon avis, dans le fond, une vraie intention de d'écrire quelque chose de mélancolique sur ce que c'est qu'être un personnage de théâtre, ce que c'est qu'être une scène, ce qui est simple, mais finalement assez efficace.
Lily Blum à présent sur ce spectacle de Fabrice Anne.
Oui, alors moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il est dans la grande tradition du clown, du clown auguste. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans cette digression permanente, dans ce vertige, cette chute, cet epic fail dans lequel il s'enfonce et il nous perd avec lui. Il y a quelque chose qui repart aux origines du clown, qui était enraciné justement dans le monde paysan, dans le aussi un côté où le clown était un agitateur social. Et donc c'est le clown auguste qui est débordé par ses émotions, débordé par des actions qui ne sont pas des actions. Enfin voilà, il est dans cette grande tradition-là, avec des indices qui sont très clairs, par exemple, de Commedia dell'arte, qui sont, voilà, quand quelqu'un tout s'arrête, voilà, ça prend le dessus sur l'action qui est sur scène. Voilà, il est vraiment dans cette tradition-là. Moi, ce que j'ai aimé dans le spectacle, c'est une forme de dangerosité qu'il touche par moment. Alors après, c'est peut-être lié à ma sensibilité à moi, mais par exemple, comme à un moment, on se prend à douter, et toujours c'est dans la grande tradition du clown, on se prend à douter entre le personnage et l'acteur, et son propos d'ailleurs, on ne sait plus où on en est, on perd un peu le fil, et à un moment il sort un fusil, et un éclair de seconde, je me suis dit, le mec pourrait vraiment péter un plomb et nous tirer dessus. Et je trouve ça intéressant, cette idée-là, d'un seul coup, où il casse un code, où on se retrouve à être un peu en danger. Et quand on l'écoutait tout à l'heure, c'était frappant comme... sa voix ressemble à celle d'Albert Dupontel, et il en partage aussi, voilà, sa dangerosité, sa versatilité, comme ça, qui en fait une grande qualité de comédien.
Bon, bah effectivement, moi, c'est ce que je préfère de ce spectacle, que j'ai plutôt aimé, parce qu'il est effectivement irrésumable, c'est une qualité, mais pas forcément, mais c'est un spectacle qui tremble, ça tremble tout le temps, et j'ai bien aimé ce tremblement, j'ai aimé ces moments de jeu sur des textes déjà classiques, et je trouve que c'est un très bel acteur, parce que en une seconde, partir sur du Calderon, sur du Claudel, moi, il m'a embarqué à chaque fois, donc c'est quand même un don tout à fait particulier, mais c'est vrai, les moments que j'ai préférés, si je puis dire, sont ces moments où la colère surgit, où il nous engueule, où il est quand même quelque chose, on se dit, mais est-ce que c'est lui qui sort du personnage, est-ce que c'est le personnage qui sort de lui, enfin il y a quelque chose de des moments d'indécision, ça se dépasse, et ce sont des moments assez inquiétants en fait. Moi j'ai vécu ça, vous aussi, mais c'est comment?
Oui, tout à fait, il y a des moments très très inquiétants, et d'ailleurs dans la langue ça dérape en permanence. Bon, encore une fois, je pense que c'est très très écrit,
oui, très.
Mais il y a aussi un malaise dans la langue qui est permanent, et qui lui fait dire des mots à la place d'autres, et parfois ça peut être vraiment très déstabilisant ou très drôle. Moi, il y a juste un truc qui m'a fait énormément rire. Voilà, je raconte ma blague. Vas-y. C'est pas vraiment une blague, mais c'est une expression. Donc, il parle de Claudel à un moment donné, puisque le personnage qu'il incarne va à la messe pour conquérir une dame. Et il dit, c'est comme Claudel qui a découvert la foi derrière un pylône de Notre-Dame. Ça, moi, je trouve ça vraiment hyper drôle, un pylône de Notre-Dame. Donc, c'est vraiment un jeu sur le langage. Bon, ça fait quand même beaucoup penser au cinéma belge. Enfin, moi, ça m'a fait...
Oui, il a fait l'école de théâtre belge, à Liège.
C'est assez même si évident, les Normands, comme on dans, voilà, dans ce lien entre la cruauté, le comique... le côté décousu, assumer à ce point-là l'absurdité des choses, moi j'ai retrouvé beaucoup de choses de la culture du spectacle belge.
Ouais. Philippe Chevillet, pardon.
Non, ce qui effectivement m'a frappé, moi aussi j'ai eu cette sensation d'inquiétude, c'est il y a ces dérapages par moments qui sont à peine contrôlé. C'est aussi quand il parle des attentats, il est sur le fil. Quand il parle aussi de sa mère, lui disant s'il n'y avait pas eu la loi Veil,
tu serais pas là.
S'il y avait eu la loi Veil, oui. Si je savais qu'il y avait la loi Veil, tu serais. Décidément, j'ai du mal à raconter ce soir les blagues.
C'est l'inverse.
C'est l'inverse une fois de plus. Je vais y arriver, mais c'est vrai que c'est un spectacle qui met la tête à l'envers. Et donc c'est ça y est, elles sont assez fortes, et à chaque fois, tout d'un coup, la fragilité se transforme en quelque chose d'un peu rugueux et qui relance tout d'un coup l'intérêt. Et qui captive. Et l'autre chose que je voulais dire simplement, c'est que quand on lit le texte, quand on le lit, c'est vraiment un texte écrit. Et c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression qu'il improvise tout le temps, mais quand on le lit, c'est vraiment écrit et c'est bien écrit.
Ouais, c'est un grand comédien, lui aussi, Fabrice Hadd, qu'on peut voir dans 14 juillet, qu'il a coécrit avec Olivier Lopez, mise en scène Olivier Lopez, jusqu'au 4 novembre au Théâtre du Rond-Point à Paris, puis d'autres dates, au Havre, plus près de chez lui, du 15 au 19 janvier à la Scène Nationale du Havre. Avant de conclure, Sarah Dion nous a rejoint comme chaque soir pour nous rappeler la question du jeu de l'émission précédente et nous donner d'abord et aussi sa réponse. Sarah ?
Oui, la question était qui a fondé la monnaie de Paris, et la réponse était Charles II.
C'était pas moi en tout cas. On fait gagner ce soir des invitations pour les expositions qui réouvrent plutôt la piscine, un magnifique lieu d'art à Roubaix, des expositions Herbie Di Rosa, Picasso, Giacometti et d'autres. C'est jusqu'au 20 janvier. Quelle est la question, Sarah ?
Qui est l'architecte à l'origine de la piscine de Roubaix ?
Votre réponse et vos coordonnées postales à envoyer aux auditeurs FC, Radio France. Comme je répète, hein, parce que je l'ai mal dit, moi aussi, c'était ma blague ratée. auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter nos émissions et s'abonner au podcast. Rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la musique. On sera avec Pascaline Potvin, Christophe Comte et Olivier Lame. Tiens, encore un peu de Belgique avec Brawl d'Angèle, Aviary de Julia Holter, et puis il y aura un coup de cœur de Pascaline Potvin pour El Mal Querer de Rosalia, et le petit salon de Lucille Comeau que nous attendons impatiemment chaque semaine. Ben, cette semaine, c'est mardi. Grande question posée, le rap français est-il désormais au service du grand capital ?